Radio Kapi. Oh, Kapi.
Pollution des rivières Kassai et Chikapa. Déjà plus de trois semaines passées, mais aucune équipe des scientifiques n'est descendue sur place pour identifier le type de polluants. Pour le directeur du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, la situation demeure préoccupante. 58 milliards de dollars américains, c'est le budget estimatif pour la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la RDC, plan présenté hier à Kinshasa par le gouvernement congolais. À ce sujet justement, nous recevons le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, penseur de ce plan. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonjour. Plus de trois semaines après la pollution des rivières Kassai et Chikapa, aucune équipe des scientifiques n'est encore descendue sur les lieux afin d'identifier le type des polluants et de déterminer avec exactitude les conséquences à court, moyen et long terme. Cette déclaration est du directeur du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC en sigle. Le professeur Raphaël Chimanga a affirmé dans une interview exclusive à Radio Kapi hier que la situation reste préoccupante car Kinshasa n'est pas non plus à l'abri de cette pollution. On écoute le professeur Raphaël Chimanga, joint par Alain Rongo-Shinj.
La RDC jusqu'à présent ne s'est pas décidée pour que les gens puissent descendre sur terrain. Il n'y a aucun scientifique qui a été sur terrain pour le moment. C'est ce que nous sommes en train de déplorer. Le jeudi 19 août 2021, nous avions quand même eu l'occasion, l'opportunité de pouvoir réunir les scientifiques et les professionnels des 36 institutions qui travaillent dans le secteur des ressources en eau, secteur de gestion des ressources naturelles, de gestion des risques de catastrophes. Et les scientifiques ont pu analyser la situation et faire des recommandations appropriées en fonction des 5 thématiques. Alors, le rapport de l'atelier a été déposé aux décideurs, au gouvernement, aux institutions ad hoc. Il est important que le gouvernement puisse se saisir de ce rapport des scientifiques pour mener des actions appropriées sur terrain afin de pouvoir déterminer la nature des pollutions et son ampleur et puis établir les mesures de réparation. C'est quand même un problème qui surgit, une catastrophe environnementale. Il faut qu'elle soit déclarée par notre gouvernement.
Province du Maniema, ces cris de désolation des malades se trouvant dans les hôpitaux en particulier et la population locale en général y déplorent le silence du gouvernement quant à la situation des personnels non médecins. Au téléphone de Radio Kapi, l'un des malades demande l'intervention rapide des autorités, surtout du chef de l'État, pour mettre fin à ce qu'il qualifie de catastrophe. Bienvenue Bouchir Issaïdi a été joint par Florence Kizalunga.
Il y a des malades qui souffrent actuellement et qui ne reçoivent pas des soins et peut-être qui arrivent à mourir faute des soins, parfois des transfusions qui sont effectuées sans qu'elles soient vérifiées. Vous constatez aussi la recrudescence de traitements traditionnels non vérifiés et donc une situation catastrophique que vit la population pendant cette période. Le moment étant le moment le plus difficile, confronté à plusieurs situations de maladie, et c'est pendant ce moment-là que la population est abandonnée sans soins appropriés. Nous demandons que les gouvernements congolais prennent en compte la situation, elle n'est pas une situation minimisable. C'est une situation qui va de la vie de la population. Et surtout que cela doit être pris en compte en conformité avec la philosophie du chef de l'État qui prône les peuples d'abord. Les gouvernements s'impliquent à trouver des solutions les plus urgentes à cette situation, à cette catastrophe qui touche à la vie de la population. Il n'y aura pas de gouvernement sans population. Et si la population est abandonnée dans des situations les plus complexes comme celle-ci, donc c'est une situation incompréhensible.
Signalons que le personnel non médecin de Kasongo a déposé le matin du mercredi leur correspondance à l'administrateur du territoire de Kasongo, objet poursuite de la grève décrétée depuis le 2 août dernier par le personnel non médecin. Je vous le disais en titre, 58 milliards de dollars américains, c'est le budget estimatif pour la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la RDC, plan présenté hier à Kinshasa par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité et décentralisation. Daniel Asselo a représenté le premier ministre Samalou Kondé à cette cérémonie. C'est confiant à Paul Matendo, le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaungia, penseur de ce plan, estime que ce montant peut être facilement mobilisé, entre autres par la diplomatie économique de la RDC. Écoutez plutôt Julien Paluku.
Ce pays devra s'industrialiser par différents secteurs prioritaires. Il y a la création des zones économiques spéciales dans les 6 espaces que nous avons indiqués. Il y a la construction des infrastructures industrialisantes. comme les infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires et énergétiques. Et les budgets donnent les détails du montant qu'il faut pour chaque catégorie d'infrastructures. Et le total vous donne 58 milliards. Et moi, je pense que les gens peuvent être affolés par le montant de 58 milliards, mais ce n'est pas de l'argent qu'on doit dépenser en un mois. C'est un plan qui s'étend sur 10 ans, c'est-à-dire une moyenne de 5,8 milliards l'an suffit pour industrialiser ces pays. La première chose, c'est la certification de nos ressources. Nous avons des ressources qui nous permettent de lever des fonds. Ce qui sera fait, c'est le renforcement de la diplomatie économique. Donc aucun pays ne peut évoluer à vase clos.
Kinshasa, réhabilitation du centre social de Mouchi dans la commune de Lingwala. Sur fonds propres de l'église des Saints des derniers jours, partenaire du gouvernement congolais, la ministre en charge des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables l'a inauguré hier. À cette occasion, Irène Sambo appelle les bénéficiaires à faire bon usage de ces infrastructures. Paul Matendo Mayamba, reportage.
Pour Irène Sambo, ministre en charge des personnes vivant avec handicap, la réhabilitation des centres sociaux de la RDC fait partie du programme de l'agenda gouvernemental. Ainsi, le centre social de Mouchi dans la commune de Lingwala, inauguré ce jour, est l'un de ce patrimoine à protéger par les bénéficiaires, a-t-elle indiqué.
Quand on fait quelque chose comme ça, c'est mieux de les garder pour que demain, on vienne ajouter là où on s'était limité. Je leur ai demandé vraiment de bien les garder, de pouvoir protéger l'environnement dans lequel ils vivent. Ils doivent vraiment vivre comme des personnes humaines.
Pour sa part, Joseph Mabela, responsable adjoint de ce centre, a profité de cette circonstance pour présenter au gouvernement les besoins urgents des personnes vivant avec handicap.
Nous avons besoin de mousse, couverture et moustiqueur, panneaux solaires pour éclairage, fourniture scolaire pour nos enfants, chaises roulantes, béquilles et cannes blanches.
L'église des Saints des derniers jours reste disponible pour participer à l'œuvre sociale du gouvernement, a souligné Didier Mutombo, directeur du programme humanitaire de cette église.
Clôture du projet d'appui à la réinsertion socio-économique d'une centaine d'enfants sortis des forces et groupes armés sur l'axe Benimba ou Oicha. Ce projet financé par la MONUSCO et qui a duré 6 mois a permis d'encadrer des jeunes démobilisés dans divers domaines, notamment en menuiserie, mécanique, l'agro-pastorale, ainsi de suite. Une fierté pour ces jeunes, mais aussi une satisfaction pour leurs parents. Guylaine Kassassia nous fait le point.
Madrisha Vuyingo, qui a représenté le maire à la cérémonie, a salué le courage de ces jeunes dont l'âge varie entre 16 et 17 ans pour avoir quitté le groupe armé et emprunté la voie d'une vie normale. C'est donc une satisfaction de les voir finir leur formation en menuiserie, coiffure, mécanique et recevoir leur brevet ainsi que des différents kits pour leur insertion socio-économique. Cela pourra leur permettre de réintégrer la vie sociale, a souligné Marie Boulieni de la section de protection de l'enfant de la MONUSCO qui a représenté la chef de bureau. Ces jeunes, eux, se disent fiers de leur parcours. Quelques s'exprime ici.
Je venais de commencer une vie de délégués à la COP, m'a intégré dans la société et m'a appris à entretenir des plantes et aussi à faire l'élevage.
J'ai été recruté à IPLC. Je remercie vraiment la COP, la MONUSCO, même le gouvernement. Quand j'étais à la forêt, je ne me comprenais pas bien.
Les parents, eux, n'ont pas manqué aussi d'exprimer leur satisfaction. Mouindo Kaini est l'un d'eux.
Par rapport auparavant, les enfants ont totalement changé.
C'est depuis le 12 février que ce projet financé par la MONUSCO a été lancé sur l'axe Benimba ou Oicha dans le cadre de la réinsertion socio-économique des enfants mobilisés de forces et groupes armés. Beni, Gulen Kassassia, Radio Kapi.
Rendons-nous à Beni. La commune Moulekir a fait face ces dernières semaines à une insécurité criante. Des bandits munis d'armes blanches et à feu s'introduisent souvent par effraction dans des maisons pour cambrioler des paisibles citoyens. Et cela malgré le couvre-feu. Le bourgmestre de cette commune justifie cette situation par la présence dans son entité de plusieurs groupes de pression. Cependant, il s'est dit confronté au manque de mobilité pour intervenir avec les forces de l'ordre en cas de nécessité. Le commissaire supérieur adjoint Dieudonné Ngongo explique au micro dans André Kitenge.
À la prise de nos fonctions, c'est l'état des lieux que nous avons fait et a révélé que cette commune est parmi les communes les plus chaudes où habitent plusieurs groupes de pression. Plus de 10 groupes de pression habitent cette commune. Et partant de cela, nous, quand nous sommes venus, l'état de siège était venu comme l'antithèse de ces désordres, de ces incursions des groupes armés, de ces incursions nocturnes dans des maisons des gens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça nécessite aussi une thérapeutique à la hauteur. Cependant, nous sommes confrontés à des difficultés. Entre autres, la mobilité nous fait défaut. Pour contrer cette insécurité-là, il nous faut la mobilité. Il nous faut aussi des hommes. Il faut chaque fois intervenir. Mais chaque commune devrait en principe avoir une équipe de façon que s'il y a une incursion quelque part, pour aller en temps réel et répondre et intervenir, il faut que la commune dispose d'une équipe qui peut lui permettre d'aller intervenir en temps réel et sauver notre paix.
Direction la province du Tanganyika, rien ne va plus entre le rectorat et les étudiants de la faculté de médecine de l'université de Kalemie. Pomme de discorde, la gestion du dossier des professeurs visiteurs. Les étudiants s'inquiètent que l'année académique tire à sa fin sans avoir étudié des cours facultaires. Le recteur rétorque et parle des difficultés de parcours dans la prise en charge des professeurs visiteurs. Victor Kalunga Chikala envisage une possible solution palliative avant la clôture de la académique. En tout cas, la tension est persistante à l'UNICAL, nous dit François-Xavier Mibé.
On a pu payer presque tous les frais. Les professeurs ne sont pas venus tels qu'ils viennent chaque année.
L'inquiétude gagne l'esprit de plusieurs étudiants de la faculté de médecine. D'autres vont jusqu'à nourrir une angoisse sur ce qui va leur arriver à un mois et demi de clôture de l'année académique.
Il nous reste encore beaucoup de cours à étudier. Ce sont des cours qui demandent vraiment l'intervention des spécialistes. Comment on va nous former avec les assistants?
Dans cette tension, certains enseignants se rallient du côté des étudiants. Une situation qui affecte l'organisation matérielle de l'UNICAL.
Quand ils ne viennent pas, ce n'est pas que c'est seulement les étudiants qui sont sacrifiés. Même nous, les chercheurs, sommes aussi sacrifiés.
Pour toutes les plaintes, le recteur de l'UNICAL parle des contraintes survenues au cours de l'année académique, indépendamment de sa volonté dans la prise en charge de professeurs visiteurs afin d'assurer leur mobilité. Le recteur de l'UNICAL, Victor Kalunga Chikala.
La ligne budgétaire pour cette année, conformément à l'instruction académique, est de 25 000 dollars seulement. On a déjà dépensé le double. Nous sommes bloqués, même à l'UNIKIN, même à l'UNILU, où je suis professeur. Il y a des assistants, il y a des chefs de travaux qui sont même titulaires des cours. Nos étudiants devraient avoir confiance d'abord en leurs enseignants locaux.
Kalemi, François-Xavier Mibé, Radio Kapi.
Rendons-nous à Guémena. Près de 40 militaires condamnés au premier degré par le tribunal militaire de garnison demeurent en prison malgré leurs appels au second degré, ce alors que la plupart d'entre eux espèrent être acquittés, soit avoir leur peine réduite. Entre-temps, la transmission de leur dossier à la cour militaire de Mbandaka traîne, c'est ce que dénonce leur avocat conseil. Pour Maître Murphy Mopila, étant démuni, c'est condamné juste du droit constitutionnel d'interjeter appel, mais il devient difficile d'atteindre la cour militaire de l'ex-Équateur basé en Mbandaka, soit plus de 700 km de Guémena, d'où l'appel de leur avocat conseil aux autorités judiciaires d'installer une nouvelle cour militaire dans chaque nouvelle province, cas du Sud-Ubangi. Maître Murphy Mopila, joint par Paul-Richard Malengela.
Le problème est qu'il y a tant de condamnés au niveau du tribunal militaire de garnison de Sud-Ubangi, mais ces condamnés-là ont acté leur appel. Ils ont leur acte d'appel entre leurs mains. Ils sont là à la prison, qui violent leurs droits les plus légitimes d'ailleurs. Il faut que le tribunal militaire de garnison de Sud-Ubangi, si un détenu condamné atteste son appel d'urgence, la justice militaire de Guémena doit faciliter à ce que nous, ces condamnés, puissent aller à Mbandaka et défendre leurs droits. Mais quand ils ont atteint l'appel, ils restent avec l'acte d'appel entre les mains 3 ans, 5 ans avec un acte d'appel. C'est impossible. Mon souhait est qu'on puisse d'abord installer, décentraliser la cour militaire pour que non, la cour militaire soit installée ici à Guémena. Non seulement ça, que le tribunal militaire de garnison de Guémena facilite à tous les condamnés de leur permettre d'aller vite à Mbandaka et de défendre leur dossier. S'ils seront condamnés à Mbandaka, ils sont condamnés à Mbandaka, pas à Mbandaka, il y a la haute cour militaire qui existe. C'est le droit constitutionnel reconnu dans la Constitution que non, tout condamné, tout détenu doit aller en appel et faire les recours. C'est le droit. Alors.
Actualité, Afrique Monde.
Mali, l'ancien premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga est emprisonné à la maison d'arrêt de Bamako, chef de gouvernement sous l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta de 2017 à 2019. Il est poursuivi pour escroquerie, faux, usage de faux et favoritisme dans le cadre de l'achat en 2014 d'un avion présidentiel d'un montant de 30 millions de dollars. Le bureau vérificateur général, l'autorité malienne qui a épinglé l'acquisition, l'accuse d'avoir surfacturé l'appareil. Afghanistan, une double explosion dont le bilan encore provisoire est de 85 personnes tuées et plus de 160 blessés a sémé le chaos à l'aéroport de Kaboul hier jeudi. Malgré la panique causée par les explosions, les Occidentaux se disent prêts à poursuivre leurs évacuations et accélèrent les navettes.
L'invité.
Il s'agit du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia. Il appelle les investisseurs, tant étrangers que nationaux, à investir en RDC selon les filières du plan directeur d'industrialisation présenté hier à Kinshasa. Julien Paluku s'entretient avec Paul Matendo Mayamba.
Julien Paluku Kaungia, bonjour.
Bonjour.
Un plan directeur d'industrialisation de la RDC, à combien estimez-vous les budgets pour sa mise en œuvre?
Le ministre de l'Industrie a eu l'avantage de collationner les données, de les soumettre au gouvernement et le gouvernement a approuvé les documents. Donc c'est aujourd'hui l'occasion pour le Premier ministre de devoir les présenter. Et un document très important qui relève les défis, qui relève les contraintes, mais qui jette le pays sur la trajectoire de l'émergence pour un budget estimé à 58,3 milliards de dollars. Ce pays devra s'industrialiser par différents secteurs prioritaires. Il y a la création des zones économiques spéciales dans les 6 espaces que nous avons indiqués. Il y a la construction des infrastructures industrialisantes comme les infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires et énergétiques. Et les budgets donnent les détails du montant qu'il faut pour chaque catégorie d'infrastructures. Et le total vous donne 58 milliards. Et moi, je pense que les gens peuvent être peut-être affolés par le montant de 58 milliards, mais ce n'est pas de l'argent qu'on doit dépenser en un mois. C'est un plan qui s'étend sur 10 ans, c'est-à-dire une moyenne de 5,8 milliards l'an suffit pour initialiser ces pays.
58 milliards de dollars américains, comme vous le dites, c'est une somme colossale. Quelles sont les stratégies mises en place pour mobiliser ces montants?
La première chose, c'est la certification de nos ressources. Nous avons des ressources qui nous permettent de lever des fonds. Ce qui sera fait, c'est le renforcement de la diplomatie économique. Vous savez, l'Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, ne s'est pas développée par des fonds européens. Il y a eu un plan qu'on appelle le plan Marshall. La Chine, si elle s'est développée en 40 ans, contrairement à l'Europe qui a fait 400 ans, ce n'est pas des investissements américains et européens. Donc aucun pays ne peut évoluer à vase clos. Et donc ce plan, si on l'a présenté, c'est pour dire à vous les investisseurs qui avez de l'argent dans les banques, au lieu de laisser vos moyens financiers dormir dans les banques, voici les filières dans lesquelles vous pouvez investir. L'énergie, si on doit construire les centrales hydroélectriques sur l'ensemble du territoire national, c'est 2,2 milliards en dehors de Inga. Donc si un investisseur amène 2,2 milliards dans ce pays, il construit des infrastructures énergétiques prioritaires et comme on a libéralisé le secteur de l'énergie, il commence à percevoir les redevances sur les montants investis et en moins de 10 ans, il peut récupérer les 2 milliards. Donc le plan est là pour vendre le potentiel de la RDC et permettre à ceux qui ont les moyens de venir investir.
Ce jeudi, c'est la présentation officielle. La prochaine étape?
La prochaine étape, c'est la conférence des bailleurs et l'organisation des business forums. La conférence des bailleurs, pour que chacun, au regard du plan, se dise, voici ce que j'ai choisi moi. Parce qu'il y a des bailleurs qui se spécialisent dans les différentes filières. Et il y en a qui sont dans l'industrie lourde pour dire, bon, à Kisangani, il y a 82% de fer. Moi, je prends l'industrie lourde. Et d'autres qui vont dire, non, moi, je suis dans le textile. Il y a du coton qui est produit telle part. Il est dans le textile. L'autre va dire, moi, je suis dans le VA. Je vais produire les pneus. On va cesser d'amener le latex à l'extérieur pour la production des pneus Michelin. Maintenant, on peut avoir la production des pneus au Congo. Donc chaque espace a ses priorités, ses spécificités qui peuvent guider effectivement les investissements à pouvoir y installer.
Alors, la conférence des bailleurs, les bailleurs congolais, sont-ils intéressés?
La conférence des bailleurs concerne tout le monde. Quand on parle des bailleurs, les gens ont tendance à croire que ce sont les bailleurs extérieurs. Même au Congo, nous avons des gens qui ont des millions, mais qui ne savent pas ce qu'il faut en faire. Mais le plan ici vous donne les opportunités en disant, voici des secteurs prioritaires chiffrés. Si vous y investissez, vous gagnez autant. Et donc, l'appel est lancé, en même temps qu'on le fait pour les investissements directs étrangers, l'appel est lancé aux investissements directs nationaux.
Julien Paluku-Kaunga, merci.
Merci.
Le ministre de l'Industrie était avec Paul Matendo Mayamba. C'est la fin de ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga, supervision de Ben Kabamba, à la mise en onde Mimi Kindou. Merci de nous avoir suivis.